France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour Cécile Gilbert. J'ai lu Feu Sacré et j'ai été bouleversée. Vous nous prenez par la main, vous nous emmenez en Inde dans cette découverte de la spiritualité hindoue. Vous nous rappelez aussi l'importance de la parole, des mots, des mantras dans cette culture.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
S'éclairer soi-même ou pourrir, c'est la proposition radicale de votre book club aujourd'hui, avec un texte brûlant signé Cécile Gilbert qui raconte comment différentes expériences de deuil, la rencontre avec la sagesse et les textes yogis, la rencontre avec l'amour aussi et la possibilité de mourir à soi-même lui ont offert différentes naissances et une vie plus vivante. Ashram du Kerala, crémation du Benares, textes ancestraux, mantras et postures, j'ai lu ce texte dans la chaleur cuisante de l'été. Il m'a laissé une trace indélébile. La saison automnale, haïe par l'autrice, mais moins que l'hiver, a pris ses quartiers désormais et avec elle des ciels plus bas. Elle est propice à une nouvelle lecture et de nouvelles trouvailles. On est heureux de recevoir Cécile Gilbert pour Feu Sacré, paru en cette rentrée littéraire. En fin d'émission, on cherchera avec vous de la musique dans les livres pour le grand jeu des pages musicales. Et nous sommes ensemble pour une heure. Comme chaque jour, bienvenue tout le monde dans le Book Club. Bonjour Cécile Gilbert.
Bonjour Marie Richeux.
Feu Sacré, apparu aux éditions Grasset en cette rentrée littéraire. Bienvenue à vous dans le Book Club. Ici, tout commence toujours par un questionnaire lecture. On entend faire le portrait de nos invités en parlant des livres qu'ils ou elles ont rencontrés sur leur chemin. De chemin, il sera beaucoup question avec Feu Sacré. De livres aussi. Vous êtes une grande lectrice, on le sent dans ce texte, mais on le sent aussi dans beaucoup de textes que vous avez publié avant cela, des textes critiques. Vous êtes attaché à l'histoire de la littérature, à des figures que notamment vous jugez très libres. On en reparlera. Vous avez publié plusieurs essais, des anthologies, notamment sur la littérature et les stupéfiants. Est-ce que on vous présente bien en disant que vous êtes une grande lectrice, Cécile Gilbert ?
Oui, je suis sûrement une plus grande lectrice qu'auteur. En fait, j'ai l'impression que je lis beaucoup plus que je n'écris. Ça m'a toujours nourrie depuis mon enfance, parce que j'étais une enfant solitaire et parce que aussi on m'a transmis ça. Enfin, dans ma famille, on aimait la lecture, on lisait. La littérature était très importante, la langue française aussi. Donc j'ai lu beaucoup, je crois même beaucoup plus de littérature française que de littérature étrangère, bien que j'en ai lu évidemment beaucoup. Enfin, pour moi, le livre est... C'est même pas la littérature, quoi. C'est le livre instrument spirituel au sens de Mallarmé, c'est-à-dire qu'on y trouve tout, la connaissance, des territoires, de
depuis
l'évasion.
Depuis toujours ?
Presque depuis toujours, oui. J'ai l'impression. En tout cas, j'ai lu très tôt, beaucoup plus tôt qu'il n'est d'usage d'en lire, de la poésie et de la philosophie aussi. J'aime beaucoup cette démarche du questionnement. Enfin, la métaphysique, ça m'a interrogé assez jeune, à vrai dire.
Avec quel texte que vous, c'est ça, voilà. Vous avez un très bel épisode dans Feu Sacré, on y reviendra, mais vous racontez en effet comment dans l'enfance vous réalisez un jour qu'il y a quelque chose plutôt que rien, et que ça c'est une ouverture de brèche non négligeable dans l'esprit d'un petit homme. Si on vient à l'endroit où vous avez grandi, vous dites on me l'a beaucoup transmis, cet amour des livres. Par quoi on vous l'a transmis? Par quel discours? Par quel geste?
Je sais pas, en me proposant des livres, le fait qu'il y ait des bibliothèques, qu'il y ait des bibliothèques partout, chez ma tante, chez mon oncle, chez ma grand-mère qui m'a élevée, chez ma mère aussi, chez tout le monde en fait.
À chaque fois différente.
Oui, enfin, je me souviens que ma grand-mère avait beaucoup d'œuvres complètes. Elle aimait beaucoup des œuvres complètes de classiques. Alors déjà, ça faisait déjà des rayonnages pas mal. Colette, Hugo, Musset, enfin des choses comme ça. Chez mon oncle, il me semblait qu'il y avait beaucoup plus de poésie et aussi plus de philosophie. C'est dans la bibliothèque de mon oncle que j'ai découvert Nietzsche, par exemple, quand j'avais 14-15 ans. Par-delà le bien et le mal. Bon, déjà, le titre m'interpelle. J'y comprends évidemment rien, mais quelque chose quand même me saisit, quoi. Quelque chose, puisque justement, Nietzsche n'est pas un philosophe à jargon et à concept trop abstrait. Il y a quelque chose déjà d'une... Ça a l'air facile à lire, difficile à comprendre, en fait.
Et vous y tentez quelque chose à 14-15 ans ?
Oui, bah oui, je commence à lire ça un petit peu, je note des trucs. Enfin, j'ai toujours lu des choses qu'on ne lit pas à l'âge normalement où on lit ce genre de choses. C'est-à-dire toujours plus en avance, mais en fait, n'y comprenant pas, évidemment, ce que j'y comprendrai plus tard, mais déjà comme quelque chose qui me hameçonne, quoi. Puis j'ai une boulimie, en fait, de lecture et une boulimie de livres. Et puis, en fait, les livres apportent... Enfin, vous conduisent à d'autres, en fait, vous tirez des fils. Et maintenant, c'est génial, parce que comme on a informatique et Internet, en fait, on a des caisses de résonance et on peut tout de suite voir ce qui existe, ce qui n'existe pas, où on pourrait aller. Donc, c'est en fait des ramifications infinies. Et moi, je me perds volontiers dans ce labyrinthe de livres. Enfin, je me perds et je me trouve, évidemment.
C'est une expérience assez singulière que vous mentionnez, Cécile Guilbert, de lire des choses qu'on ne comprend pas, mais d'être pour autant hameçonnée. Qu'est-ce que ça raconte de votre position d'emblée de lectrice ? Il me semble que c'est une position qu'on peut trouver quasiment intacte dans Feu Sacré, d'être d'accord pour pas comprendre, mais être hameçonnée quand même.
Ben oui, il y a quelque chose à creuser, il y a quelque chose qui déjà vous éveille, qui vous... Oui, qui vous saisit. Et puis il y a aussi, il y a sûrement, quand j'étais plus jeune, il y avait aussi sûrement une posture un peu de je dirais pas d'arrogance, mais il y a une sorte comme ça de supériorité intellectuelle sur les autres, à se saisir de choses que voilà que les autres lisent pas. Enfin, il y a déjà une volonté de se distinguer. Je pense qu'il y a ça. Mais c'est après, bon, ça c'est la part impure de l'affaire.
Vous parlez de votre grand-mère, le personnage de Lucie apparaît dans Feu Sacré comme en effet quelqu'un d'important. Elle a joué quoi comme rôle ?
Bah, elle a joué un peu le rôle de d'autorité que mon père n'assumait pas, puisqu'en fait mes parents s'étaient séparés quand j'avais 3 ans et ma mère était un peu sous la coupe de la sienne. Et ma grand-mère était une femme très autoritaire et qui était veuve quand je suis née et qui avait dû faire face à pas mal de prises de décision et qui était un peu la matriarche, hein, c'était la matriarche de la famille. Et puis il y avait beaucoup de femmes dans cette famille, en fait elle avait une sœur qui était donc ma grand-tante, qui vivait qu'avec des femmes. Il y avait ma tante Colette, qui était sa fille aînée, qui n'avait pas d'enfant. Mon oncle, lui, qui était le frère de ma mère, était parti vivre un petit peu loin de tout ça. Mais en fait, j'étais quand même cernée de femmes. Et cette grand-mère était un peu le chef de famille et décidait de tout. Et donc, elle avait décidé que puisque je n'avais plus de père, il fallait qu'elle assume un peu cette... Et en fait, elle avait tendance quand même aussi à usurper la place de ma mère. Donc en fait, elle considérait que j'étais sa fille... par l'esprit, même si je n'étais pas par le sang, et elle me disait toujours ta mère c'est moi, enfin bon, tu sais bien que ta vraie mère c'est moi, enfin ce qui crée évidemment des drames et des conflits avec ma mère, mais qui en fait j'avais l'impression qu'elle servait, elle voulait servir de père et de mère à la fois en fait. Et elle a un côté viril un peu.
Et elle a eu quoi comme place dans la transmission de la littérature ou de l'amour de la connaissance?
Bah, finalement ma grand-mère n'était pas une intellectuelle, donc en fait elle lisait, mais si vous voulez, elle n'était pas elle lisait des choses plutôt convenues, elle avait des goûts, je trouve, qui n'étaient pas finalement si originaux. En fait, je m'en rendais compte. Mais elle avait cet amour de la langue française et elle écrivait volontiers. Et à vrai dire, tout le monde écrivait un peu dans ma famille. Alors ma grand-tante a écrit en tant que vraie auteure, elle était dramaturge, elle a écrit des volumes de poésie, des récits qu'elle a publiés chez des grands éditeurs. Mais en fait, tout le monde écrivait, ma grand-mère écrivait beaucoup tous les matins, elle était à sa table, elle écrivait des choses, des poèmes beaucoup, elle a écrit beaucoup de poèmes que je trouvais un peu fleur bleue. Puis des pensées personnelles, des choses qu'elle a racontées sur sa propre famille, ses états d'âme. Et moi j'ai en fait voulu avoir tout ça à sa mort, donc c'est moi qui ai hérité de ses papiers que j'ai lus avec intérêt et parfois en souriant, parce qu'elle parlait souvent de moi aussi dans ses papiers, elle disait des choses pas forcément très agréables, mais elle se souciait beaucoup de ce que j'allais devenir et elle s'inquiétait fort. Mon oncle aussi écrivait très bien, et je cite dans Feu Sacré des récits de voyage qu'il a écrits. C'était une sorte d'aventurier, il avait vraiment le goût de la poésie et je pense qu'il avait vraiment du talent.
Vous avez mentionné Nietzsche et jusqu'à maintenant pas d'autres noms. Si on essaye comme ça de mettre quelques étoiles dans la constellation de votre ciel de lectrice, Cécile Guilbert, on trouve qui immanquablement ?
Ah ben Baudelaire, parce qu'en fait Baudelaire, que j'ai lu quand même assez jeune, est vraiment enfin j'ai eu 2 auteurs qui m'ont donné l'envie d'écrire à mon tour. Ça a l'air comme ça très opposé, c'est Baudelaire et Pascal, Blaise Pascal. Dont j'avais lu les pensées, et il y avait donc toute cette problématique de l'infini, de la place de l'homme dans l'univers, le cosmos. Déjà, ça m'a rabouté un petit peu. Il y avait Baudelaire, parce que j'avais certes une révolte, mais aussi une sorte de spleen quand même à l'adolescence, je dois vraiment l'avouer, quoi. J'avais quelque chose d'un peu torturé, il y avait cette noirceur de Baudelaire, mais en même temps cet esthétisme et ce dandisme qui me parlait beaucoup. Donc Baudelaire était très important, et puis alors Rimbaud, Lautréamont, bon, des poètes quand même de la révolte, mais aussi des poètes métaphysiques... Et puis après Bataille, Artaud, enfin vous voyez cette veine-là, quoi. Une veine...
Et jamais quittée ?
Et après, les romantiques allemands, alors j'en parle pas dans Feu Sacré parce que je pouvais pas parler de tout, mais les romantiques allemands aussi étaient très importants pour moi parce que d'abord, bon, le romantisme, ça me plaisait, le romantisme français me plaisait, mais après, quand j'ai découvert les romantiques allemands, ça m'a beaucoup emballé parce que justement, il y avait cette dimension de faire de la poésie avec de la prose. Et puis il y avait bon quelque chose, toute une réflexion sur l'absolu qui me... Et oui, et c'est resté évidemment.
Quand j'y suis resté, c'est que c'est encore des auteurs que vous lisez.
Oui, bien sûr, oui, bien sûr.
C'est votre présent.
Oui, bah alors après il y en a eu d'autres. Hein. Il y a eu René Daumal, il y a eu d'autres poètes, mais d'autres. Enfin, je sais pas, Kafka, les journaux de Kafka, des choses comme ça. Non, mais ça c'est resté évidemment. Et approfondi surtout, parce qu'à vrai dire, quand j'ai lu jeune Une saison en enfer, Les Illuminations, bah après, Les Illuminations, c'est vraiment très, très hermétique d'une certaine façon. Donc, il faut les, enfin, on les relit, on y trouve autre chose, ça s'approfondit.
Vous avez un rapport comme ça d'étude et d'approfondissement au texte, y compris, on viendra sur les autres textes dont vous parlez dans Feu Sacré, mais à ces textes que vous venez d'évoquer, Cécile Guilbert, y revenir, ça fait partie de la manière dont vous lisez?
Oui, alors moi, de toute façon, l'étude, c'est quelque chose de très important pour moi. Et à vrai dire, quand j'ai imaginé vers 14-15 ans que je pourrais peut-être écrire, pour moi, écrire, c'était écrire en secret, quoi. C'était pas du tout penser à publier, c'était écrire en secret. Et en fait, ce que j'aimais dans le fait d'écrire, et c'est pour ça que ça me séduisait tellement, c'est que c'était d'abord un mode de vie qui impliquait la solitude, une forme de silence et de retrait. Ça me plaisait. Il y avait déjà un côté monacal et un côté... voilà, de retrait, pas une tour d'ivoire, parce que bon, je pense que écrire, il faut aussi être informé du monde dans lequel on vit. C'est pas une tour d'ivoire, mais il y a cette histoire de loisir studieux quand même. Ça, c'était très important. Et en fait, il y avait aussi cette dimension. J'ai toujours aimé étudier, même à l'école, j'aimais étudier. J'aime l'étude en fait et les plages d'études que procure la lecture. Ça m'a toujours convenu. Pour moi, c'est une sorte de luxe et une sorte aussi de volupté, quoi, vraiment. Et pour moi, écrire, c'est aussi étudier et lire des livres et prendre des notes et réfléchir. Et en fait, quand on écrit, je crois qu'on reste étudiant toute sa vie parce qu'il y a toujours des choses à connaître et à découvrir. Et les livres sont voilà, un cosmos en expansion continue.
Prêcher une convaincue. Vous citez le texte de Camille de Toledo, un texte de Camille de Toledo, paru chez Verdier, où il revient sur le suicide de son frère et la question très féconde et fertile, où il dit « Qui se suicide comme mon frère se suicide ?» Et ça donne lieu en effet à un très beau texte que vous lisez. C'est le seul texte véritablement contemporain que vous évoquez, Cécile Guilbert, je crois, dans Feu Sacré, peut-être, en tout cas. Mais on a l'impression qu'il y a quelque chose du monde très contemporain qui revient pas très souvent, mais qui vous agace. Vous êtes pas très tendre avec le monde contemporain. Il y a des choses de la jeunesse et tout ça que vous taclez volontiers. Détour pour vous demander si vous lisez de la littérature contemporaine.
Mais j'en lis énormément. Ouais. J'en lis énormément. D'abord, j'appartiens à plusieurs jurys littéraires, donc j'ai la chance et le privilège de lire énormément de choses.
Des choses qui paraissent.
Et je suis toujours étonnée par mes collègues, entre guillemets, écrivains ou auteurs qui me disent « Ah, mais moi, je relis les classiques, il n'y a rien de bien, la littérature contemporaine. » Je suis toujours extrêmement choquée par ce type de discours.
Ça vous intéresse?
Et y compris des lecteurs qu'on rencontre qui vous disent « Ah, moi, je ne lis plus que des essais aujourd'hui, mais la littérature française, c'est pas... » J'ai dit « Il y a énormément de choses, en fait. » Et moi, de toute façon, cette histoire de contemporain, je ne la prends pas du tout comme vous, parce que pour moi, lire Sebald qui est mort, lire certains... Vous
dites... C'est contemporain?
C'est contemporain, parce qu'on ne les lit jamais qu'au présent. Et que finalement, des grands morts, entre guillemets, nous semblent plus vivants que bien les vivants qui nous entourent. Donc, encore une fois, si des choses passent par l'esprit, cette histoire, cette dimension du temps, en fait, s'abolit d'une certaine façon. Donc, mais c'est vrai que, bon, il se trouve que Camille de Toledo m'intéressait par son affaire de lapsus du temps et par les coïncidences et les événements qui... Parce que lui s'intéresse à la généalogie... transgénérationnelle, etc. Enfin, aux influences des traumatismes à travers les générations. Et ça, c'est une question qui était un petit peu à la mode et qui m'intéressait dans la mesure où aussi j'avais expérimenté des retours de dates et des choses, des coïncidences dans le temps qui étaient un peu troublantes.
On y viendra, c'est d'ailleurs un des aspects de Feu Sacré.
Mais je ne tiens pas du tout à mettre mes contemporains écrivains à distance. Non, je les lis beaucoup. Il y a souvent des écritures originales, nouvelles. Il y a des dispositifs toujours de fiction ou de textuels qui sont intéressants, oui.
Il y a quoi sur votre table de chevet de lecture en ce moment?
En ce moment, il y a la biographie de Joé Bousquet. dont le premier tome est paru chez Claire Poland et qui est une nouvelle interprétation de l'existence et du traumatisme qu'a vécu Joé Bousquet après sa blessure, en étant blessé pendant la guerre de 14 et paralysé toute sa vie dans sa chambre, un peu comme Proust enfermé. Donc il y a ça.
La rigolade, quoi.
Il y a le livre de Philippe Sands, parce que j'aime bien cet auteur qui fait des enquêtes sur les droits de l'homme. Et donc là, il y a une enquête entre 38 rues de Londres sur les liens des nazis et la dictature de Pinochet. Non, il y a des choses assez variées. J'ai lu beaucoup de choses de la rentrée, mais...
On va parler de votre texte à vous. Cécile Guilbert, juste après ce morceau du dernier disque de Louis Clavis, sorti il y a vraiment juste quelques jours, c'est un disque qui s'appelle India, et voilà ce qu'il en dit. Cette musique est faite de mélodies, de danses, d'improvisations soutenues par des pulsations et des rythmes obstinés. J'ai de lointains souvenirs d'un théâtre sur les docks de Calcutta, d'un long train dans la campagne, d'une nuit à Kali, dans un temple, d'une fanfare pendant les fêtes de Ganesh. Je souhaite faire entendre les sons d'un lieu lointain qui serait plus un songe qu'une réalité. On écoute un extrait de A Night in Kali Temple, Sarah Murcia à la contrebasse, Benjamin Mousset au piano, Christophe Lavergne à la batterie, Olivier Lenay à la trompette et bien sûr Louis Clavis à la clarinette.
Club, Marie Richeux.
Feu sacré aujourd'hui dans votre book club, et c'est d'abord l'histoire d'une résistance. Tout en vous, vous le racontez, Cécile Guilbert, refuse dans un premier temps ce qui contredit votre éducation intellectuelle, parisienne, rajoutez-vous, cartésienne, et vos héros littéraires d'une première vie. Quand votre tante Colette introduit dans la famille, je cite, ces choses venues de l'Inde, spiritualité et pratique du yoga, vous raillez, je cite encore, cette morale du faible et l'idéal ascétique qui sied si peu à votre vie du moment. Plusieurs morts plus tard et leur lot de scandales intimes, vous trouvez dans la spiritualité hindouiste, mais aussi dans l'Inde comme pays, dans certains regards, une vision renouvelée du monde et la possibilité d'une autre vie. Feu sacré, c'est le titre du récit paru en cette rentrée littéraire aux éditions Grasset. C'est un geste que j'ai trouvé radical, survenant dans un moment précis de votre vie que vous décrivez en ces termes. Je cite de nouveau. « Si nombreux sont les êtres qui, n'y prêtant aucune attention, se contentent, faute d'exister, de cet abrutissement qui s'appelle vivre, il me semble avoir atteint l'âge où il devient possible de retourner la trame embrouillée du tapis pour découvrir, enfin, ses motifs. » Feu sacré, c'est le titre de ce livre paru, je le dis, aux éditions Grasset. Alors, il y a vraiment l'idée d'un moment. D'ailleurs, il y a presque la survenue d'une saison, en fait, au début du livre. Une saison que vous n'aimez pas trop, le retour de novembre. Et l'occasion de s'y plonger, de remonter le fleuve, de s'élucider soi-même, de retourner le tapis, Cécile Guilbert. Vous le faites aussi à la faveur de la lecture d'un article et d'un prince indien mort. Qu'est-ce qui converge? Quelles sont les pistes qui convergent, qui rendent l'écriture de ce livre possible? dont, je le redis, il me semble que c'est une aventure assez radicale.
Oui, il m'a semblé à un moment que des circonstances, des saisons qui revenaient, des dates qui revenaient, des motifs finissaient par dessiner quelque chose et que après tout, bon, si j'avais un peu répugné, oui, j'avais jusque-là répugné un peu l'écriture autobiographique, j'avais juste publié un récit il y a quelques années, un épisode très précis, mais voilà, sans suite. Qui avait certes dans ma vie la matière à beaucoup de livres, et après tout, j'aurais pu en écrire une dizaine avec la matière qu'il y a dans Feu Sacré.
C'est vrai.
Mais que, voilà, je voyais pas, enfin, j'avais le nez collé sur les événements et que je ne voyais pas l'intérêt d'écrire à chaque fois qu'il m'arrivait quelque chose un livre. En revanche, ce que je trouvais beaucoup plus intéressant, c'était finalement de dessiner, à l'âge qui était le mien aujourd'hui, une constellation qui me semblait maintenant apparente. Et alors effectivement, quand je lis cet article en 2017 de ce prince indien qui est mort dans une sorte de bâtisse désolée de la forêt de Delhi et qu'on a mis plusieurs jours à retrouver, finalement ça fait écho à quelque chose que j'ai vécu moi-même. Et puis je me dis, mais après tout, il avait pas le même âge que mon frère qu'on avait retrouvé mort chez lui, mais il avait peut-être, voilà, il y avait quelque chose d'une désolation. Et je me disais, mais pourquoi je tirerais pas tous ces fils? Et puis en fait, le confinement est arrivé. Alors j'avais cette idée en 2017, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec cette histoire? Ça me paraissait pas clair, qu'est-ce que je vais raconter? Après tout, je ne sais rien sur ce prince, puis c'est juste des circonstances comme ça d'un décès. Et puis en fait, à force d'y réfléchir, et j'ai commencé à gamberger un peu sur tout ça, et puis j'ai... À la faveur du confinement, il m'est arrivé d'autres comme ça coïncidences en lisant ces balles, en retrouvant le nom de Cyrus qui était celui de ce prince et tout ça. Et j'ai commencé à rentrer dans quelque chose, mais qui n'était pas simple à démêler. Et puis en fait,
concrètement, ça se présentait comment quand vous dites que c'était pas simple à démêler? C'est-à-dire que vous étiez déjà en train d'écrire?
Non, j'étais pas en train d'écrire. J'écrivais des notes sur un cahier. Et je me disais, mais c'est marrant là, au jour d'aujourd'hui, je suis en train de réfléchir à ça et paf, je m'aperçois que c'est l'anniversaire de la mort de Sebald, par exemple. Bon, des trucs comme ça, je peux plus vous raconter parce qu'il y en avait plein en fait, et je voulais les mettre en appel de notes dans le livre, et puis en fait ça faisait trop fou, et puis ça faisait trop, ça chargeait le livre. Mais bon, j'ai commencé à me dire, mais l'hiver, en fait, c'est l'hiver que je suis toujours allée en Inde, et c'est l'hiver qu'il y a eu tous ces morts, et qu'est-ce qui s'est passé plus tôt? Puis j'ai commencé à remonter dans mes propres archives, qui sont à la fois des lettres familiales, parce que j'ai reçu beaucoup de lettres familiales, puis j'ai mes vieux agendas, et puis j'ai commencé à regarder toutes ces dates qui coïncidaient, puis j'ai essayé de faire des schémas pour... Longtemps, j'ai fait des schémas, mais sans savoir comment j'allais prendre tout ça, et puis j'avais eu encore aussi une autre histoire folle... vers 2018, où un ami avec qui je travaillais depuis des années sur le thème des labyrinthes dans les collections bouquins s'occupe des archives d'un poète que je connais à peine, que j'ai jamais rencontré, et puis il me dit, mais tu sais, il était allé en Inde, mais où il était allé en Inde? Et puis alors tout ça bouillonnait, et puis un jour il arrive avec des photos de ma propre famille qu'il retrouve dans une vieille grange au fin fond du Cantal. Donc là j'ai commencé à me dire, il se passe quelque chose d'un peu fou, et j'ai eu envie, voilà, et j'avoue que ça n'a pas été simple en fait d'organiser tout ce qui était dans ma tête comme ça, parce qu'il fallait que je remonte en fait de mon enfance, qui était le premier moment où j'ai entendu parler de l'Inde dans ma famille, grâce à ma tante et ce prof de yoga, ce maître indien qu'elle avait rencontré, qu'il avait initié au yoga. Et après, il y a eu quand même beaucoup de... Alors, il fallut que je reprenne un peu toute la chronologie de ma vie, mais en laissant de côté tout ce qui ne correspondait pas à ce fil. Parce qu'évidemment, c'est pas une autobiographie, ce ne sont pas des mémoires. Feu Sacré, c'est plutôt comment effectivement un motif s'est dessiné, mais il y a plein d'angles morts, et forcément.
Évidemment, on sent que, d'ailleurs, on parle, on entend dans cette citation, et on y reviendra évidemment, retrouver la trame embrouillée, retourner la trame embrouillée du tapis pour découvrir enfin ses motifs. Vous suivez un motif, et c'est celui de l'Inde dans un premier temps, et d'ailleurs de l'Inde presque comme un territoire imaginaire, puis un territoire presque terrestre, avant que ça devienne bien autre chose, Cécile Guilbert. Vous racontez comment c'est presque un bain de son au début pour vous, l'Inde. C'est presque le charme de certains mots. On en revient à des trucs que vous entendez ou lisez sans les comprendre. Ce sont des mots prononcés, peut-être même des odeurs, peut-être même le corps de votre tante en train de faire certaines postures. C'est comme un bain.
Oui, bah, c'est très sensoriel, quoi. Ça passe par le corps, ça passe par des sonorités évidemment inconnues qui sont pleines de voyelles, hein, des ikachars, yoga, madras. Et puis bon, pour les enfants qui ont lu, alors moi je suis un enfant du XXe siècle, on faisait lire Kipling, alors c'est puissamment exotique l'Inde, hein, c'est puissamment exotique et ça s'incarne tout de suite dans des choses très qui fascinent les enfants, hein, les marajas, les éléphants, tout cet Orient dont on ne sait pas s'il est réel
Et dont vous entendiez parler dans les salons, chez vous, quoi.
Oui, oui, j'entendais parler de l'Inde. Ma tante y partait, en revenait. Bon, elle parlait du yoga, tout ça. Bon, je ne savais pas trop ce que c'était. Mais bon, et en même temps, par ailleurs, je lisais des choses, des contes, des trucs de Kipling. Où pour moi, l'Inde, c'était effectivement ce continent peuplé d'éléphants, de Maharajas avec des turbans et toute une féerie de mille et une nuits. Mais un Orient dont on ne sait pas s'il existe vraiment ou si c'est un Orient... purement imaginaire. C'est pour ça que la première fois que j'ai mis les pieds en Inde, j'ai découvert un Orient qui me plaisait beaucoup parce que c'était l'Inde moghole, par exemple de Delhi, avec une architecture, quelque chose qui correspond ni à l'Orient du Moyen-Orient, ni à l'Orient du Proche-Orient, ni à l'Orient de l'Extrême-Orient. Et en fait, l'Inde, c'est l'Orient. C'est ni l'extrême, ni le moyen, ni le proche. Pour moi, c'est ce pays qui est l'Orient. Et en fait, il correspondait à un Orient qui me plaisait beaucoup esthétiquement.
C'est marrant parce que vous dites, on ne sait pas si ça existe ou ça n'existe pas. Il y a une grande partie de la première partie, Cécile Guilbert, qui cherche presque à sonder votre résistance à ça. C'est qu'on sent que votre corps, votre éducation, votre tête résistent à ces choses venues de l'Inde, comme vous dites, jusqu'à ce que plusieurs choses cèdent, notamment devant la mort. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez dire de quoi était faite votre résistance?
C'est-à-dire que si on m'avait dit « je t'emmène en Inde en voyage », j'aurais sûrement dit oui et acquiescé à tout. Parce que moi, j'adore voyager. Et puis l'idée de partir en voyage en Inde, au pays des Maharajas et des éléphants, formidable. Mais c'était pas de ça dont il s'agissait. On me disait « il faudrait que tu te mettes au yoga, ça va te faire beaucoup de bien ». Pour moi, le yoga, c'est une forme de gymnastique, j'en avais pas vraiment besoin. Enfin, j'ai pas à m'ennuyer. Je préférerais, comme je le dis, jouer au tennis ou au basket et courir, pas faire de yoga. Bon, après... à la suite d'un drame familial qui est le suicide de mon cousin, qui est presque mon jumeau à 17 ans, sa famille décide d'aller en Inde, se réfugier d'une certaine façon dans un ashram qu'on leur conseille, et ils rencontrent là un grand maître qui les éblouit, les illumine et les va commencer à être, les transformer d'une certaine façon, dont l'enseignement va conduire. Et là, on me dit, il faudrait que tu le rencontres. Mais moi, j'ai beaucoup souffert de la mort de mon cousin, mais je suis pleine d'une vitalité. Et puis pour moi, les feux sacrés à l'époque, c'est ceux de la poésie. Je me dis, l'art va me sauver, la beauté va me sauver, l'amour, avoir des amoureux, etc. Et une vie un peu dissolue, certes. Mais je ne vois pas la spiritualité au sens... dans ce sens-là, ne me parle pas. D'autant que, effectivement, comme vous l'avez dit et comme je le raconte... Je fais des études de philo, je m'intéresse à la philo, et puis je vis dans un pays comme profondément cartésien où, d'une part, l'Inde est rabattue sur un truc de hippie, un délire de hippie ou alors un délire de secte. D'une certaine façon, il y a quelque chose toujours de péjoratif dans l'idée d'avoir un gourou. Quand mon oncle et ma tante me disent « nous avons un gourou, qu'est-ce que c'est quoi un gourou ? Est-ce que c'est celui qui dissipe l'obscurité au sens du sanskrit « gourou » G-U-R-U, ou est-ce que c'est un gourou, c'est-à-dire un imposteur potentiel, comme il en existe aussi beaucoup en Inde, et pas seulement dans les sectes occidentales qui pullulent sur ces brisées-là. Donc il y a une résistance qui vient de la peur d'une imposture, de la peur d'être abusé, comme si la position d'être souffrant en fait vous rendait plus vulnérable à des croyances et comme si d'une certaine façon la foi c'était pour consoler. Eh bien, c'est pas la foi au sens chrétien, mais si vous voulez, comme si la croyance religieuse ou spirituelle était une consolation pour les humains trop faibles.
Voilà. Donc vous ne vouliez pas du tout à ce moment-là.
Et moi, je veux pas être trop faible, je veux pas être une victime du chagrin, etc., ni être consolé. Donc j'ai tendance à mettre ça de côté, qui est la preuve d'une grande arrogance et d'une grande ignorance. Parce qu'ensuite, et je tiens à le dire, Feu Sacré n'est pas un livre de deuil au sens où j'aurais accédé à cette sagesse, où je m'y serais davantage intéressé, ou même je m'y serais pas converti, mais je l'aurais adopté, ou en tout cas pris en considération très fortement, à cause des deuils. C'est pas ça, c'est pas une posture de résilience, c'est pas quelque chose pour se consoler. Il se trouve que les deuils, en fait, par la perte de ces êtres chers qui viennent à toutes les décennies de mon existence, me font fissurer une sorte de carapace que j'ai construite, alors ou pour me défendre du chagrin ou de ma vie,
oui,
de l'histoire familiale.
Ça pourrait ne pas tenir complètement ce que vous dites, Cécile Guilbert. C'est-à-dire que quand vous dites ce n'est pas parce que les deuils, alors peut-être c'est le lien de causalité que vous tenez à défaire, mais c'est quand même au moment des deuils. C'est-à-dire il y a une concomitance quand même de la brèche que fait les morts dans votre existence.
Mais en fait, oui, mais en fait, elle me vient. J'ai l'impression qu'elle est davantage liée à l'amour qui me lie à ces morts qu'à la mort, si vous voulez. Mm-hmm. C'est en fait c'est l'amour, et c'est pour ça que je dis que cette constellation, elle s'établit entre l'Inde, l'amour, les livres. C'est parce qu'en fait, parce que pour accéder en fait à cette sagesse indienne dont on va reparler et qui est très difficile à comprendre pour nous, parce qu'en fait, on la rabat sur l'hindouisme, qui est une notion qui n'existe pas pour les Indiens, qui est une espèce de religion. On voit des gens se prosterner dans des temples devant des dieux par milliers qu'on comprend pas. Ça n'a rien à voir avec ça. La plupart des hindous qui vont dans les temples en Inde, je ne sais même pas s'ils ont lu les textes védiques. D'une certaine façon, c'est la foi du charbonnier, une foi populaire qui voilà, consiste à aller se prosterner dans les temples. Mais en fait, quand on prend en compte le corpus de textes qui existe depuis des millénaires en Inde et qu'on se penche sur ce qui est le cœur de cette pensée mystique en fait, indienne...
Ce que vous faites avec précision dans
Voilà ce que je fais. En fait, on se rend compte que voilà, il y a des discours extrêmement spéculatifs de philosophes autour des commentaires des textes anciens qui sont à la fois poétiques, métaphysiques, assez compliqués, complexes. Il y a tout un corpus d'une sorte de littérature dans laquelle on peut rentrer intellectuellement, mais si on y rentre intellectuellement, ça ne suffira pas. Il faudra y rentrer par ce que les Indiens appellent la voie de l'amour, de la bhakti, etc. Et en fait, cette voie-là. Comment assouplir votre être de façon à vous rendre perméable à tout ça, en fait, ou en rencontrant une incarnation sur place. C'est pour ça que c'est pas facile d'accéder à tout ça quand on rencontre pas une incarnation authentique, parce qu'on pourra rencontrer des imposteurs, évidemment, qui ont des yeux de velours et qui vont vous raconter n'importe quoi. Mais
soit
se mettre dans un état, enfin c'est le deuil vous fissure quelque chose de votre carapace intellectuelle et de votre vous fracasse un peu d'une certaine façon et donc vous devenez plus voilà vous adoucissez vous devenez plus tendre et peut-être que à travers ça et moi il se trouve que c'est passé par là puisque vraiment la voie de l'amour ça a été celle qui m'a obligée, d'une certaine façon, à aller rencontrer ce grand sage indien malgré moi, puisqu'en fait, je ne l'ai rencontré que parce que je voulais faire mes adieux à mon oncle qui était parti mourir dans cet ashram.
Cet ashram. Il y a une scène centrale dans Feu sacré dont on va écouter un extrait.
Je n'ai pas vraiment le temps de m'attarder aux maladresses protocolaires, car soudain... Alors que Valérie me désigne le porche de sa maison, surgit un vieil homme chenu. Et là, vitesse de l'éclair, instant diamant de la plongée de ses yeux dans les miens. Son regard surgit d'un autre monde. Ma prosternation, corps aplati au sol de tout son long, comme une crêpe. Mes larmes, incompréhensibles. J'ai bien conscience que même isolé en italique et complété après tiré, ces trois mots échoueront à faire comprendre la nature de l'événement qui survient. Comment décrire alors l'orage sec qui les traverse et les maintient serrés comme un poing dans un silence assourdissant d'après foudre? Alors que passe sur moi une aile magnétique inconnue, vertige ou frappe au cœur, un éclat de fièvre auréole cette nanoseconde d'extase pure qui pourrait ressembler à une éclosion, une effraction, un commencement tranchant de simplicité. Sri Adwanyananda rentre dans sa maison. J'éclate de rire et de pleurs. Je n'ose essuyer la morve qui dégouline sur ma belle écharpe choutame. Notre rencontre a duré moins d'une minute, mais c'est tout ce que j'espérais. Ressentir une émotion. Éprouver quelque chose d'inédit. Le contraire m'aurait déçu. Sachant qui je suis, à la fois une intellectuelle rationnelle et une personne sensible, je ne peux être abusé. Je n'ai pas été trompé. Valérie rayonne. Quel Darshan ! Quel quoi ? Darshan, le moment où l'on voit et on est vu par le divin. Tu as de la chance. C'est une bénédiction. Bonne fête, ma cousine. C'est vrai ? On est le 22 ? Quelle douceur. Mais j'ai surtout senti une puissance vertigineuse, sans appel. C'est aussi cela, le Darshan.
Je le disais, c'est une scène centrale, parfaitement inoubliable, Cécile Guilbert. Ce darshan, ce fait d'être vu et de voir le divin, dont vous dites quasiment après l'avoir décrite que vous avez conscience que la littérature peine à le rendre.
Oui.
Et pourtant, je peux témoigner que moi, qui vraiment n'ai jamais vécu ce genre d'expérience, j'étais moi aussi en larmes en lisant cette scène. Elle saisit vraiment de manière incroyable.
Oui. C'est très curieux parce que bon, j'ai entendu parler de cet homme depuis des années. Depuis des années, on me dit qu'il faut que je le rencontre.
Votre oncle est à ce moment mourant, malade, oui, dans cet ashram, quoi.
C'est-à-dire qu'il a un cancer du cerveau. Il décide après une opération que bon, il voit déjà ce qui va se passer. Il a les caribes en scylla dans les traitements jusqu'aux soins palliatifs et il décide d'aller mourir au pied de ce qu'il appelle son maître. Bon, Sri Adwayananda, dont j'entends parler donc depuis plus d'une décennie, si c'est pas deux. Et que j'ai jamais voulu rencontrer parce qu'il me semblait que je voulais le rencontrer. Si je l'avais rencontré, ça aurait été par curiosité. Et même si je ne suis pas sensible très fort à toutes ces choses, en fait, j'ai un grand respect pour cet homme qui est quand même, dont j'entends parler avec beaucoup de vénération. Et je ne pense pas que la curiosité est un motif noble pour le rencontrer. Donc, en fait, je refuse de le rencontrer. Et même quand il vient en France, je refuse de le rencontrer. Puis bon, il y a tous ses disciples autour. J'aime pas trop ce type d'ambiance. Bon. Mais là, je suis obligé d'aller le rencontrer puisque je vais voir mon oncle. Et évidemment, quand ce moment survient, que je le rencontre au sens physique, c'est-à-dire que je le vois, mon regard croise le sien et se passe ce que j'essaye d'écrire et que j'écris dans Feu Sacré. Et après, évidemment, je ne peux pas ne pas m'interroger sur la nature de l'événement qui survient et je ne peux pas ne pas m'interroger sur le fait que j'ai peut-être été prise émotionnellement dans un contexte qui fait que déjà je suis bouleversée, je sais que mon oncle va disparaître, j'ai envie de lui faire plaisir peut-être inconsciemment, je ne sais pas, j'interroge ça. Et puis par la suite, dans le livre, je vais interroger qu'est-ce qui fait qu'un homme comme celui-là est un peu différent, même si c'est un être de chair et de sang comme nous, avec un entendement, des perceptions, une vie sensorielle et cognitive, en quoi diffère-t-il de nous? Quel est son mode de présence? Et je m'interroge un peu rationnellement là-dessus, et je pense qu'effectivement c'est très difficile d'en parler, parce qu'on a des pauvres mots face à ce qu'il émane de lui, une paix, une sérénité, une joie, une lumière, mais quand vous dites ça, bon, les gens ricanent, mais c'est difficile à dire, parce qu'en fait, devant l'inexprimable, les Indiens disent « Om », c'est-à-dire l'absolu. Et en fait, on se dit, mais comment
un homme... Quel dernier mot de votre texte ?
Voilà, comment on peut... c'est quoi l'absolu ? En fait, il a une présence impersonnelle, et surtout, il est dépourvu d'ego. Et ça, effectivement, c'est quelque chose, on peut creuser, hein, je creuse ce que ça veut dire, cette impersonnalité, et le fait d'être dépourvu d'ego, et de laisser passer finalement de l'amour et une forme de vérité. Et en fait, après, quand vous avez rencontré cet homme qui vous avez saisi cette incarnation, vous en avez été touché au cœur et à l'âme, après, quand vous lisez les textes, évidemment, ça s'éclaire tout d'un coup, ça passe plus par l'intellect, c'est merveilleux.
Alors justement, vous le faites de lire les textes et vous le faites avec comme ce nouveau regard ou ce nouveau cerveau ou ce nouveau corps, Cécile Guilbert, notamment par exemple la Bhagavad Gita, il est question justement de l'idée d'une accession à une dissolution du moi.
Celui dont l'intelligence est éclairée, qui se maîtrise par la fermeté de sa volonté, qui s'est dépris des objets sensibles, sonores ou autres, qui frugale, à dépasser la dualité de l'attraction et de la répulsion, qui se tient dans la solitude, contrôle ses paroles, ses pensées et ses actions, s'adonne à la méditation en pratiquant un perpétuel détachement, qui s'est affranchi de l'ego, de la violence, de l'orgueil, du désir, de la colère, de l'esprit de possession, qui est désintéressé et apaisé, celui-là est mûr pour se fondre en Brahman. Identifié au Brahman, l'âme sereine, il ne s'afflige ni ne désire quoi que ce soit. Équanime envers tous les êtres, il se voue à moi d'une dévotion suprême. À travers cette dévotion, il me reconnaît dans ma réalité et ma grandeur. Et dès l'instant où il vient à me connaître tel que je suis, il pénètre en moi.
La Bhagavad Gita, qui est lue dans une traduction française par Leïli Anvar sur France Culture en 2011, un texte littéraire et profane tiré de l'épopée du Mahabharata, texte que vous citez que l'on vous voit lire et étudier avec tant d'autres textes, tout un corpus en fait qui s'ouvre à vous, Cécile Guilbert, et dont vous nous transmettez quelques bribes. On entend ici deux notions que vous discutez dans votre texte, Brahman et Atman, et aussi l'idée de la dissolution de soi ou de l'ego. On est loin de la jeune femme qu'on rencontre au tout début du texte Feu Sacré. Il y a quelque chose, il y a un espèce de grand chemin qui a été parcouru à ce moment-là.
Oui, il y a un grand chemin qui a été parcouru, mais en fait, si j'étais vraiment hindou, je dirais qu'il faudrait encore plusieurs vies pour arriver à ce qui est énoncé, évidemment, dans la Bhagavad Gita, à savoir que, certes, cette pratique, peut faire de vous quelqu'un sans doute de meilleur s'il abandonne la colère, l'orgueil, trop d'ego, etc. Mais il faut quand même voir une chose, c'est que nous sommes des êtres de désir, et ce qui est très difficile à abandonner, c'est le désir et c'est l'attachement. Il y a une contradiction, là, je tiens à la souligner, parce qu'en fait, on ne m'interroge jamais là-dessus, hein, sur Brahman, Atman et tout ce que ça comporte.
D'autant que, par ailleurs, au tout début du texte, vous êtes aussi avec Freud. Et on sent bien, Cécile Guilbert, à vous lire, que le désir, que l'éros, que la vitalité, au sens de ce qui vous propulse dans la vie, vous n'avez pas tout à fait l'intention de l'abandonner quand même.
Mais non, justement, c'est pour ça que je tiens à dire qu'il y a une contradiction, c'est qu'effectivement, il faudra abandonner son ego et être un peu moins moi pour être un peu plus soi, c'est-à-dire cette parcelle Atman, comme disent les hindous, c'est-à-dire une âme, on a tous une part divine qui doit évidemment fusionner avec la part divine universelle, si vous voulez. Mais en fait, quand on fait à la fois des métiers de création, on a un ego, forcément, on a un désir, on veut écrire, on veut faire ci, on veut aimer, on aime, on s'attache à des êtres, on s'attache à des objets, on s'attache à des livres. Moi, je suis très attaché à ma bibliothèque, donc je suis bien loin, si vous voulez, de cette fusion.
Avec l'âme universelle.
Voilà, il faut remettre... Mais c'est quelque chose auquel on peut aspirer et qui, de toute façon, vous fera du bien. Enfin, je veux dire, vous serez mieux. Forcément, vous serez mieux dans votre vie, forcément.
Vous racontez ça prend du temps hein, dans ce livre-là, cette vision ashram, la lecture, la découverte des textes, la manière dont d'un seul coup aussi beaucoup de choses s'ouvrent pour vous, Cécile Guilbert. Vous commencez à pratiquer le yoga, il y a des pages émouvantes, délicieuses, drôles aussi parfois de vous qui débutez le yoga alors que vous semblez ne pas être tout à fait disposée. Et puis il y a quelque chose qui retombe à la mort de votre frère, où d'un seul coup, tout ce qui semble vous avoir rempli de force, de lumière, de capacité, de redressement, vous commencez à vous interroger, vous vous dites, mais en fait, c'est vain, j'arrive pas, en fait, même avec cet outil-là, j'arrive pas à faire face à la grande douleur de la perte, un premier temps.
Oui, c'est-à-dire que je pensais être un peu éclairée, familiarisée avec plusieurs chagrins, des pertes, des épreuves, etc. Et puis survient la mort de mon frère. Et d'ailleurs, c'est à la suite de la mort de mon frère qu'en fait, je suis obligée de faire du yoga. C'est-à-dire que la médecine me dit, si vous faites pas de yoga, si vous débloquez pas votre diaphragme, vous allez continuer à souffrir de tout ce que vous avez. Je passe sur les détails. Voilà, de mots physiques très, très, très invalidants et très désagréables. Et donc là, je me dis, c'est vraiment l'ironie de l'histoire. Donc je suis obligée par la médecine de faire du yoga. Et en fait, mon imprégnation intérieure fait que je ne veux pas aller faire du yoga n'importe comment. C'est devenu très, très à la mode hein, entre mon enfance de filleule, de ma tante prof de yoga et ce qui se passe aujourd'hui où il y a des profs de yoga qui fleurissent partout et des cours, etc. Je décide de quand même aller voir un Indien. Voilà. Et il se trouve que... sur mon chemin, on m'a parlé quelques mois auparavant d'un Indien du Kerala, c'est-à-dire de 5 minutes de là, l'endroit où je suis allé dans le passé, etc.
Qui va même connaître l'ashram précisément.
Voilà, qui connaît cet ashram, qui sait très bien qui est Sri Adwayananda et qui a l'âge de mon frère, en fait. Donc j'en fais une sorte de transfert. Et d'ailleurs, mes amis psychanalystes me disent aujourd'hui, mais toutes tes histoires de sage et tout, mais en fait, tu fais juste un transfert.
Mais pourquoi pas ?
Ben oui, pourquoi pas ? Peu importe. C'est pas l'interprétation qu'on donne, c'est le fait est important. Et donc, je rencontre ce maître yogi indien qui est installé à Paris, je commence la pratique du yoga avec lui, qui évidemment me dit... Et alors là, c'est pareil, c'est-à-dire que le yoga, pour moi, c'est bien plus que juste faire des postures ou respirer de façon harmonieuse... toutes les semaines pendant une heure ou après chez moi toute seule dans mon coin. C'est-à-dire que ça me reconnecte en fait, puisque c'est une discipline qui vise à calmer le mental et à calmer l'intellect et à à vous reconnecter à cet atman d'une certaine façon. Donc c'est voilà, à nouveau en faisant ça, je me reconnecte aussi au texte et je comprends à la fois à chaque fois beaucoup mieux tout cet enseignement.
Oui, parce qu'il y a vraiment quelque chose sur ce chemin-là. On revient à l'idée du motif que vous suivez dans Feu Sacré, où le corps, petit à petit, devient un outil de compréhension plus en avant pour vous, Cécile Guilbert, que la tête qui est si présente au début. Mais je voudrais juste qu'on revienne sur le fait que vous avez l'impression d'être outillé, mais quand en 2014 survient la mort de votre frère, vous dites, bah, en fait, ça tient pas.
Non, parce qu'en fait, la mort de mon frère a été subite et dans des circonstances quand même assez pénibles, puisqu'on a retrouvé son cadavre 15 jours après sa mort et que je n'ai pas vu ce cadavre, évidemment, mais qu'il a fallu identifier sur des photos, enfin, toute une procédure médico-légale extrêmement sordide. C'est une sorte de mort de fait divers. Enfin, c'est des trucs que j'imaginais pas du tout qu'il allait pouvoir m'arriver un jour. Bon. Et en fait, là, je sais pas ce qui s'est passé. Enfin, si, je sais ce qui s'est passé. C'est-à-dire que je suis submergée par ce côté cadavérique. Et en fait, je pense que cette épreuve m'est infligée pour que j'aille au fond de cette affaire, en fait. Et, parce qu'après tout, les décès qu'on rencontre dans sa vie, vous avez des êtres malades qui finissent par mourir, ou bon, des êtres qui meurent de vieillesse, etc. Mais ce type de mort, avec cette prééminence du cadavre, je tiens à ce mot. Là, c'est quelque chose qui est en fait la plus forte identification que vous pouvez faire à la mort. C'est-à-dire, justement, dans cette sagesse indienne, il s'agit de pas s'identifier au corps. Il s'agit de pas s'identifier non plus à ce qu'on vous raconte que vous êtes, c'est-à-dire une femme, un homme de telle classe sociale qui fait tel métier. Vous avez toute une série d'identifications de fausses identités qui vous entravent. Et là, l'histoire du cadavre, c'est terrible parce que là, vous identifiez l'être mort à ce cadavre, hein, en putréfaction. Et donc, ça, c'est. Donc c'est la chose la plus grande à dépasser, en fait. Et en plus, c'est quelque chose de très baroque, le cadavre. Hein.
C'est aussi pour ça que tous les voyages ou tout le temps passé à Bénarès et la manière dont vous décrivez Cécile Guilbert, que là aussi, presque dans un bain sensoriel, vous êtes plongée dans les crémations, dans les corps morts, dans le fleuve.
Ah ben j'ai axé en fait dans mes récits de voyage, je me suis focalisée sur Bénarès qui est la ville la plus sainte, parce qu'effectivement à Bénarès il y a ces fameux guettes de crémation qui brûlent depuis la nuit des temps, et que moi je suis très sensible à cette idée, si vous voulez. Ce qui m'a plu dans l'Inde, c'est cette tradition qui existe depuis des millénaires et où on peut retrouver aujourd'hui un ethos religieux comme on le trouvait il y a des millénaires. C'est-à-dire que je crois que c'est le seul pays au monde où finalement ça n'a pas bougé. Vous trouvez des ascètes sur la route comme vous trouviez des moines sur les routes au Moyen-Âge, et des renonces qu'on appelle des sannyasins, des renonçants, des sadhus qui font l'aumône, exactement. Et vous avez cette espèce d'Inde ultra-technologique, et en même temps vous avez cette Inde complètement archaïque et ancienne et immémoriale. Et donc à Bénarès, c'est le lieu de l'immémorial, puisqu'en fait rien n'a changé et les feux sont allumés au même feu initial depuis des millénaires, depuis la nuit des temps, puisqu'on dit que Bénarès est la ville la plus anciennes du monde. Et donc savoir que tous ces feux brûlent depuis la nuit des temps, jour et nuit, en permanence, ça c'est une idée qui, enfin c'est une idée, une réalité physique et visuelle qui m'a. Et aussi le fait de voir des corps brûler, alors que dans les crématoriums ils sont éloignés de notre vue, de notre ouïe et de notre odorat, je tiens à le dire, parce qu'on sent de la chair grillée du matin au soir quand on passe là. Hein. Ça m'avait fasciné, parce que je me disais, mais en fait, pour les Indiens, de toute façon, la mort, c'est une nouvelle naissance. C'est pas la mort, c'est pas la fin de quelque chose, c'est le début d'une autre, puisqu'ils croient à la réincarnation. Donc ça m'avait quand même, beaucoup fasciné, cette idée que finalement, mourir, c'était naître à autre chose. C'est-à-dire qu'on mourrait pas, la vie ne s'arrêtait jamais, d'une certaine façon. Simplement, quand mon frère meurt, effectivement, là, je plonge dans l'identification au cadavre. Je suis bien loin de tout ça. Et donc, je suis obligé de faire du yoga. Et le yoga, en fait, c'est une façon, effectivement, de créer une nouvelle diététique. Et donc, ça me reconnecte à Nietzsche, d'une certaine façon. Parce que Nietzsche avait eu beaucoup de réflexions sur... Il conspuait l'idéal ascétique des chrétiens parce qu'il pensait que c'était... des êtres faibles qui avaient besoin d'un au-delà pour se consoler, justement, un arrière-monde, comme il disait. Mais en fait, il y avait quand même une diététique nietzschéenne qui existait, dans la mesure où il savait qu'il fallait être végétarien, enfin, il pensait qu'il fallait être végétarien, que c'était mieux pour la pensée. Il buvait de l'eau, c'était quelqu'un d'assez malade, hein, Nietzsche. Donc, il avait une hygiène de vie spéciale. Et en fait, le yoga je me dis, si je fais du yoga, il n'est plus question que je mange ce que je mangeais, ni que je boive ce que je buvais, etc. Je reconfigure complètement toute mon existence pour un peu la purifier, parce que j'ai trop macéré dans le cadavre. Effectivement, et que ça me paraît aller de soi qu'on peut pas faire du yoga si par ailleurs on s'enivre la veille ou le jour même, vous voyez, des choses comme ça. Donc pendant plusieurs années, effectivement, j'ai complètement révolutionné tout. Alors je suis pas puritaine au point de jamais mangé de viande. Vous voyez, bon, je fais des excès de temps en temps pour bien me rappeler que ça ne m'est pas bénéfique. Mais sinon, effectivement, changer d'hygiène de vie, et ça va ensemble. Et il y a une chose que je tiens à dire, parce que ça peut peut-être aussi aider des lecteurs, c'est qu'à l'âge où on pense qu'on va vieillir, ça me nuisait, que les organes vont se détraquer, les hormones aussi, enfin bon, bref, le vieillissement... Et ben en fait, on peut complètement renaître et se régénérer et repartir de s'éveiller à autre chose qui va vous redynamiser, parce qu'il suffit pas d'être en bonne santé, il faut aussi avoir de l'énergie.
Ouais. Et d'ailleurs, il y a vraiment quelque chose de quitter la putréfaction, quelle qu'elle soit.
Et l'énergie, ça, c'est vraiment ce qui est au cœur de cette pratique, hein. Ça redonne de l'énergie.
Pour aller vers l'énergie et le vivant, on en revient même à la citation en exact de votre livre, tout écrit qui n'est pas une façon de s'éclairer soi-même pourrira comme un corps, c'est de Jack Kerouac. Cette énergie, elle vous ramène presque comme un esprit de looping ou de labyrinthe à l'écriture, à une certaine version de l'écriture. On écoute un nouvel extrait de Feu Sacré.
Selon Christina Campo, pour chaque homme en son périple, il existe un thème, une mélodie qui est sienne et n'est destinée à nul autre, qui le cherche depuis sa naissance, depuis l'aurore avant les siècles. Plus je la lis, et plus sa passion fixe des nombres et des symboles rigoureux me transporte. Comme les hindous décrits par le Michaud d'un barbare en Asie, elle aime les recettes, les codes, les chiffres, et comme eux excelle à introduire dans les choses et les actes une valeur supérieure, presque sacrée, quasi magique. Je m'aperçois alors que ce qu'elle n'a cessé d'emblématiser sous forme d'initiation par les contes de fées, de cryptographie secrète située au-delà du monde visible, dont elle refuse autant l'omnipotence que d'y croire exclusivement, agit sur moi comme un révélateur. C'est à ce moment-là, je crois, entre choc et début de guérison, que je commence à envisager le réel comme fourmillant d'allusions cachées, de signes, de fables, et mon existence en son sein comme une vaste allégorie d'un motif qu'il me faut découvrir, jusqu'à ce que l'inexplicable envers du tapis montre quelque chose de son endroit resplendissant.
Ça a touché, vraiment.
On vient d'entendre un extrait de votre texte Feu Sacré, Cécile Guilbert, et on y revient à cet envers du tapis, à la recherche du motif, au caractère resplendissant de ce motif. La fin du texte nous ramène d'ailleurs à l'écriture, puisque dans une page qui s'appelle Envoi, vous commencez en disant « J'ai écrit ce livre pour savoir pourquoi je désirais tant l'écrire ». Donc, une fois qu'on lit cette phrase, une fois qu'on a traversé tout ce chemin avec vous, mais on en revient à une certaine manière d'écrire sa vie. Il y a une façon d'écrire sa vie en tenant compte de la manière dont s'agence dans le réel des signes. Et à la fin du texte, on vous retrouve comme une nouvelle narratrice de vous-même, Cécile Guilbert.
Oui, je pense que écrire ce texte, bon, qui est vraiment une césure dans tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, je le sens très fort. C'est-à-dire que même, je pense que ce texte est un peu talismanique pour moi. J'ai souffert pour l'écrire, j'ai mis beaucoup de temps. Ça a été, je crois, le livre que j'ai eu le plus de mal à écrire de toute ma vie.
Oui, mais du coup, c'est une offrande pour nous.
Mais d'ailleurs, je pense que ce livre me porte bonheur et qu'en fait, il ouvre une nouvelle phase pour moi. Et en plus, dans l'écriture aussi, parce que je pense qu'avant, j'avais une écriture qui était un peu plus, beaucoup plus cérébrale. Et en fait, là, j'ai préféré travailler sur la narration des choses plus que sur faire des effets de style ou des belles phrases très, très littéraires. Il y en a sans doute, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est plus la narration, prendre le lecteur avec moi et qui soit embarqué dans cette aventure, une aventure, oui, spirituelle, cette autobiographie spirituelle et intellectuelle, et ce chemin de transformation, parce que je pense qu'il existe pour chacun un motif, comme le dit Christina Campo. Christina Campo qui m'a beaucoup aidée, en fait, quand je après la mort de mon frère, bien avant que je commence le yoga, quand j'étais malade et que j'avais un texte à écrire, il fallait que je rende un texte à un éditeur, et en fait, ça tombait bien que ça soit sur elle que j'avais choisi d'écrire, parce que je crois pas que j'aurais pu lire grand-chose. Et elle m'a complètement éclairée. C'est vraiment la littérature absolue au sens de Robert Roberto Calasso. Hein. Roberto Calasso a toujours été un penseur important pour moi avec ce concept de littérature absolue, c'est-à-dire qu'il y a une littérature de, voilà, absolue. Certains écrivains font partie du club, et Calasso, qui s'était tellement intéressé à l'Inde, tout ça m'a beaucoup aidé. Donc Christina Campo dit, c'est à partir de Christina Campo que je me suis dit, mais c'est pas, ce qu'elle dit est tellement fort, quoi. Il y a sans doute un motif à découvrir dans chaque existence, dans l'existence de chacun. On appelle ça le destin, c'est un mot un peu pompeux. Mais en fait, il y a un motif, il y a une constellation, les choses n'arrivent pas par hasard. Si vous rencontrez telle personne qui vous emmène à telle autre, si vous lisez tel livre qui vous emmène à telle autre, si vous vivez des répétitions, comme diraient les psychanalystes névrotiques, etc., il y a sans doute quelque chose. Et donc chacun peut découvrir sa propre constellation et découvrir quelle est son... Quelle serait la beauté et la féerie de son parcours ? Parce qu'en fait, ça finit par rendre les choses assez merveilleuses et féeriques. D'une certaine façon, c'est une féerie profane, mais au même titre que, si vous voulez, l'attention qu'on portera à ces signes qui se manifestent, comme disait Simone Veil, c'était une manifestation profane de la prière, en fait. C'est-à-dire faire attention.
Mais alors là, vous tombez bien. C'est exactement la question que veut vous poser Audrey, notre auditrice.
Bonjour le Book Club, bonjour Cécile Gilbert. J'ai lu Feu Sacré et j'ai été bouleversée. Ce que je trouve très fort, c'est qu'en nous parlant justement de ça, votre écriture, elle devient d'une certaine manière sacrée, comme si vos mots, à travers la littérature, avaient cette capacité à transformer, à apaiser, à élever, un peu comme ces mantras dont vous parlez. Et quand on vous lit, on avance avec vous, on va vers cette lumière du verbe littéraire au verbe sacré. Et je crois que c'est ça qui rend Feu Sacré si beau. Alors je me demandais, Cécile Gilbert, est-ce que pour vous, écrire, c'est aussi une façon de prier ? Merci pour votre réponse.
Ben dis donc, merci Audrey.
Ben, le sacré, c'est ce qui est à part. Donc les livres sont à part, écrire c'est à part. C'est à part du monde profane et c'est pas complètement religieux, mais c'est à part, c'est l'étymologie de sacré.
Il y a dans cette émission une séquence qui arrive à la fin et qui s'appelle le grand jeu des pages musicales. On cherche dans les livres une musique ou l'évocation d'une musique. On en a trouvé dans Feu Sacré. On se quitte donc avec un dernier extrait. Il faut comprendre, au mot de Tito, qu'Emmanuel a d'une certaine façon toujours été en route vers la vérité. Autant que vers une sorte d'exigence spirituelle dont nous sommes tous puceaux. Faisant de lui à jamais notre aîné, son suicide l'a rendu maître d'un certain savoir qu'il nous faut découvrir à notre tour. Naturellement, cela ne constitue pas une invitation à l'imiter. Plutôt qu'il a accompli une sorte de sacrifice afin que son père, sa mère et sa sœur transforment entièrement leur existence. Aussi, sous peine d'entrer dans un devenir de mort vivant, ils n'ont pas d'autre issue désormais que de s'engouffrer dans cette dimension qui s'est ouverte à eux de la manière la plus cruelle. Dire cela signifie-t-il que Tito est déjà dans la voie ? Ou que les familles ont toujours besoin d'inventer un récit pour éteindre le feu dévorant de la culpabilité ? Pour ma part, claquemurée dans le noir et en moi-même, sans doute déprimée, je n'emploie jamais ce mot, je ne trouve d'échappatoire que dans les beautés giflées et labourées à longueur de journée sur le clavier de mon piano. Lieds et nocturnes, qui de la mélancolie me font découvrir l'aboulie du désir et la volupté ambiguë, mais aussi études et ballades endiablées de Chopin, à travers lesquelles s'épanche tout le sublime de mon désespoir esthétisé à mort. Sinon, tourne aussi en boucle, sur mon manche disque, « All by myself » d'Eric Carmen, plagiat du concerto pour piano numéro 2 de Rachmaninoff, dont la scie romantique me ravage à n'en plus finir. I never needed anyone. Making love was just for fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. But when I dial the telephone, nobody's home. Merci beaucoup Cécile Gilbert.
Merci beaucoup à vous.
D'avoir été avec nous pour évoquer Feu Sacré paru aux éditions Grasset. Au son aujourd'hui, c'était Nicolas Bonnet. À la réalisation, Sam Bakia. Un immense merci à toute l'équipe du Book Club et particulièrement aujourd'hui à Cyril Marchand. Pour poursuivre la conversation autour de Feu Sacré, rendez-vous sur le compte Instagram du Book Club.